Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être ici et de vous rencontrer dans le cadre de cette journée. Alors comme l'a annoncé Anne-Marie Benayoun, il s'agit ici de faire un zoom, une focale en fait, sur l'un des établissements avec lequel nous collaborons depuis maintenant 2 années, le collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, donc dans le Calvados. Alors Anne-Marie Benayoun m'a demandé de présenter pendant une petite vingtaine de minutes ce qui, aux clés, le sigle du collège lycée expérimental, soutiendrait l'engagement des élèves. Et j'utiliserai le conditionnel presque systématiquement. Alors je vais essayer de le faire en laissant de la place aux propos des enseignants que nous avons rencontrés, aux propos des élèves que nous avons rencontrés dans le cadre de cette recherche. Alors pour commencer, Dominique l'a clairement annoncé il y a quelques minutes, il faut bien noter que depuis plusieurs décennies maintenant, les différents dispositifs d'aide, d'accompagnement, de soutien à la scolarité ne cessent de se multiplier à l'école, se succédant parfois en changeant presque simplement de nom au fil des réformes. Ainsi, je vous dis PPRE, accompagnement éducatif, accompagnement personnalisé, activité pédagogique complémentaire. Et en effet, la liste est encore longue. Alors parfois, il concerne tous les élèves. Parfois, il concerne seulement les élèves en difficulté. Parfois, ils sont destinés aux seuls élèves volontaires. Le résultat de cette construction presque en mille feuilles de dispositifs est d'abord des frontières de plus en plus poreuses entre l'école, l'après-école, le pendant l'école, le hors l'école, et finalement les différents acteurs de chacun de ces différents temps de l'enfant. Et peut-être un manque de clarté autour des objectifs et des moyens pour chacun de ces dispositifs. Pour les enseignants, probablement pour les élèves, peut-être pour les parents. Alors qui soutient quoi? Pour qui? Quand? Qui accompagne qui? Pourquoi? Comment? Les réponses à ces questions sont parfois floues. Alors pourtant, il y a bien derrière chacune de ces réformes un objectif commun qui est presque le même depuis 1981 et la création de l'éducation prioritaire, qui est en finir avec l'échec scolaire et travailler ensemble à l'école pour la réussite de tous les élèves. On retrouve également une valeur commune que l'on pourrait aisément traduire par un concept assez à la mode ces derniers temps, la bienveillance éducative. Mais comme le rappellent certains chercheurs qui font partie également de notre groupe de recherche, la bienveillance à l'école, en éducation, c'est avant tout de l'exigence, et de l'exigence pédagogique et didactique. Et pour être bienveillant, il faut d'abord bien connaître l'enfant. Et connaître l'enfant, continue à préciser Elisabeth Bautier, modifie le temps, modifie le temps, cette fois des exigences. Je vous propose donc maintenant de mettre la focale sur l'un des établissements scolaires avec lequel nous collaborons, donc le collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair. Je vous propose d'y regarder justement quel serait, et je vous le disais, je vais utiliser le conditionnel parce qu'on est encore en train de chercher, donc quels seraient les différents temps. Finalement, ces temps des exigences et ces temps de soutien aux élèves, ce qu'ils apportent. En quoi participent-ils également, peut-être, de la réussite des élèves? Alors, dans le cadre de cette présentation, je prévois de mettre l'accent sur la nécessaire triptyque établissement, élève, enseignant, plutôt établissement, enseignant, élève. Donc, une intervention en 3 temps différents, mais pourtant si nécessaires les uns aux autres. Donc, zoom au bout de 2 ans d'enquête sur le clé. Alors un premier temps pour essayer de mettre en relief ce que les différents types de soutien apporteraient à l'établissement scolaire, ici en l'occurrence le CLÉ. Alors quelques mots très rapides sur cet établissement pour que vous puissiez le situer. Donc on est à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, en Normandie, un établissement qui a été créé en 1982 à l'initiative d'un groupe d'enseignants cannais dans le cadre de la phase d'expérimentation du ministère Savary. Donc c'est 350 élèves scolarisés donc au collège de la 6e au lycée en terminale. Le CLÉ se caractérise par un projet pédagogique assez singulier et se positionne comme un établissement structuré sur des pratiques dites alternatives. Les principes tels qu'il les affiche sont les suivants, je vais rapidement les citer. L'élève est une personne, un élève est un sujet, il a une histoire, un environnement qu'on doit prendre en compte. même s'il faut l'amener à se dépasser pour devenir membre d'un groupe et d'une collectivité. Il a le droit au développement maximal de ses aptitudes ainsi qu'à la reconnaissance de la diversité des types de talents. Hein, vous verrez au fil de la présentation, je pense, beaucoup d'éléments qui viennent illustrer les propos que Dominique a introduits. Alors, d'après nos observations, d'après nos entretiens avec les enseignants, le montage pédagogique du CLE, qui est ici schématisé sur la diapo, avec quatre pôles, nous renvoie à un fonctionnement et une organisation systémique singulier. Le cadre très structuré des journées, mais également des semaines, permettant de combiner ces quatre pôles, hein, des pôles, un pôle d'enseignement, un pôle d'accompagnement individuel, un pôle avec des temps et des espaces coopératifs, puis un pôle avec des formes de pédagogie de projet. Ce cadre est pensé pour permettre un potentiel étayage des élèves, des apprentissages des élèves, pardon, tout au long de l'année. Ce cadre systémique semble avoir un impact fort sur ce que l'on nomme aujourd'hui le climat scolaire. Éric Debarbieu rappelle en 2012, et je le cite à ce propos, que le lien très fort entre climat scolaire, qualité des apprentissages, réussite scolaire, est largement établi par la recherche. Travailler sur la notion de climat scolaire est donc bien travailler sur des questions touchant à la construction et à la transmission des connaissances. Il précise, hein, ce n'est pas un simple ajout plus ou moins utile aux missions fondamentales de l'école. Alors cette notion de climat scolaire est perceptible dans le discours des enseignants et des élèves au CLE. Hein, pour les élèves, il a un impact direct sur leur motivation, sur leur attachement à l'institution. Alors plusieurs d'entre eux nous disent, hein, et je vais leur laisser un petit peu la parole, « Pour moi, le CLE, c'est la famille », nous disent les élèves. Cela impacte donc sur leur bien-être dans leur bahut, tel qu'ils le qualifient. Et du côté des enseignants, ils nous disent « Ça correspond, nous dit un enseignant, à ma conception de l'enseignement, c'est-à-dire de ne pas venir dans ma classe. J'ai pas ma classe, j'ai mon bahut, voilà. Et dans ce bahut-là, avec les avantages et les inconvénients. » Alors Anne-Marie Benayoun, lors d'une de nos rencontres de recherche, a utilisé une formule qui m'a semblé parlante, que je vais lui emprunter. Les élèves sont sensibles à la météorologie scolaire, hein, à ce climat scolaire. C'est ce qui ressort de nos recherches et c'est ce qui ressort aussi du point de vue des enseignants. Hein, très sensibles à ce cadre qui leur permet un ressenti positif dans l'établissement. Alors on comprend rapidement les relations fortes de cause à effet entre climat scolaire, pensé et amélioré ici par une organisation temporelle des temps scolaires singulières, et l'engagement des élèves. Cette organisation systémique, cet effet établissement, ces quatre pôles structurants rendraient ainsi possible le soutien à l'engagement des élèves dans leur scolarité et dans leur apprentissage. Alors allons maintenant examiner ce que ces dispositifs proposés apporteraient aux enseignants, plus précisément. Alors il nous semble dans un premier temps que ces dispositifs permettraient aux enseignants une évolution de posture professionnelle. Alors deux exemples pour illustrer cette potentielle évolution de posture. Le temps de décloisonnement disciplinaire, TDD hein, dans le jargon du CLE, ça on apprend aussi dans les établissements, chaque établissement a ses sigles. Donc le TDD, temps de décloisonnement disciplinaire. Dominique Glassman en a un petit peu parlé, ce travail sur l'interdisciplinarité. Alors il est organisé sur des périodes de 3-4 semaines, ce travail. Autre exemple, les groupes de tutorat. Au CLE, les enseignants ne sont pas professeurs principaux, mais annuellement tuteurs d'un petit groupe d'élèves qu'ils suivent à la fois individuellement et collectivement. Eh bien, ces deux dispositifs seraient des temps scolaires lors desquels la posture professionnelle pourrait évoluer. Alors pourquoi ? La pratique de la co-intervention dans l'interdisciplinarité, mais aussi les rencontres individuelles et collectives avec le groupe de tutorat, placeraient l'enseignant dans une situation pédagogique, une relation pédagogique inhabituelle. Alors une première enseignante déclare, et je la cite, « Alors moi je suis très attachée, j'adore travailler en TDD parce que ça me permet de travailler avec des collègues différents. » Donc aussi de découvrir un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le mien. Je trouve ça évidemment intéressant. Et d'autre part, d'arriver à voir comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir ensemble. Une autre enseignante nous dit, on repense la chose. parce qu'on va intervenir avec un collègue. Ce même enseignant, concernant cette fois le groupe de tutorat, déclare « Alors on discute avec un élève sur comment s'est passée sa semaine. Est-ce qu'il y a eu des matières où il a eu des difficultés? Des progrès qui ont été faits? Est-ce que certaines notes l'ont surpris? Comment ça se passe à la cantine, etc. s'il rencontre une difficulté dans sa classe ou ailleurs ?» Moi, j'ai l'impression, nous dit-il, on est une oreille pour les écouter sur leur ressenti de l'école. Donc on constate avec ces deux exemples de dispositifs, d'une part, une potentielle mise en danger par l'interdisciplinarité, la co-intervention, qui oblige plus ou moins les enseignants à repenser leurs pratiques pédagogiques, leurs interventions, mais à laquelle ils adhèrent. Et d'autre part, un basculement dans une posture d'écoute lors de ces groupes de tutorat, rendu nécessaire par ce fonctionnement systémique. Ainsi, les enseignants se donneraient-ils à voir différents auprès de leurs élèves? La relation établie avec les élèves se transformerait. Ils témoignent, nos enseignants. Ils disent « c'est vraiment la qualité de ce relationnel-là qui va effectivement permettre le plus qu'un élève puisse faire part de ses difficultés et n'hésite pas ». Un enseignant nous confie à ce propos « donc effectivement, tu te dis « tu vois les gamins en cours, ce qui est le principal de mon boulot, mais je les vois en tutorat, je les vois en atelier, je les vois dans la cour, plein de collègues, ceux qui sont fumeurs, les voient aussi sur le parvis. Et c'est cette multiplicité de ces facettes-là du gamin qui permet de faire en sorte de ne pas faire de conneries, nous dit l'enseignant, de connaître l'enfant. Connaissance, je vous le disais en introduction, nécessaire à l'exigence que réclame la réussite éducative. Donc les dispositifs sont également des outils, et c'est le second point de la diapo, nécessaires, qui permettraient, pardon, de fait, aux enseignants de chercher et d'expérimenter. C'est à travers ces dispositifs-là qu'on tente, qu'on recherche. Ils peuvent ainsi faire évoluer, peut-être, leur pratique pédagogique. Là, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, nous dit un enseignant. On peut expérimenter, on peut chercher. On travaille aussi sous forme d'atelier, et dans un atelier, nous confie une enseignante, eh bien, on n'enseigne pas. Dans un atelier, on n'enseigne pas. Forcément, sa matière, continue-t-elle. Par ailleurs, et c'est le troisième point de cette diapositive, la notion d'équipe, de collectif, cette fois du point de vue des enseignants, la notion d'équipe, semble très importante dans cet établissement. Alors, dans l'emploi du temps, il y a des temps de concertation, qui sont prévus une fois par semaine. Alors cette coopération, cette concertation semble être un moment incontournable selon les enseignants pour rendre efficaces ces dispositifs. Alors elle permettrait le soutien des collègues entre eux, le partage des craintes et des idées, l'implication, le développement de la pratique et de la réflexivité dans la pratique. Une des différences fondamentales, nous dit un enseignant, c'est l'équipe. C'est-à-dire l'idée d'un travail en équipe affirmé, d'un moment où on partage des choses et on tire tous dans le même sens. Après, peu importe le choix de l'expérimentation, nous dit un enseignant, qu'on se donne, mais c'est la possibilité de se dire « on décide de quelque chose ensemble, avec un statut majoritaire ». Des fois, on peut être dans la minorité et ça ne nous plaît pas. Moi, dans cette équipe, ça m'arrive relativement souvent d'être dans la minorité. Mais peu importe, la majorité a choisi. J'assume le fait que je sois dans la minorité, mais je vais dans le sens de ce qui est choisi, même si ce n'est pas ce que moi je voudrais faire. C'est une super leçon de se dire, ça peut marcher comme moi je ne voulais pas, précise cet enseignant. Alors pour reprendre cette fois les propos de Dominique Glassman lors d'une de nos réunions, il s'agit de coopération en mode majeur et non de coopération en mode mineur, de collaboration pardon en mode mineur. Alors, dernier volet de cette présentation, cette fois autour de la préoccupation qui est la nôtre aussi, l'appropriation des élèves de ces dispositifs de soutien. Qu'apporterait-il cette fois-ci du côté des élèves? Alors, nous l'avons déjà un petit peu abordé. Ce qui semble importer, c'est surtout la manière dont les élèves se saisissent des différents dispositifs. Quelle lisibilité ont-ils de ces dispositifs? Les comprennent-ils réellement? C'est ce qui pourrait peut-être faire la différence entre des dispositifs opérationnels ou non. Alors, aux clés, les élèves semblent tout à fait conscients de la dimension relationnelle qui caractérise leur établissement. Ils le ressentent et nous le disent. Tu sens que tu peux parler avec eux, eux les profs, que tu peux plus avoir accès à une discussion. Enfin, qu'ils peuvent plus avoir accès à nous, nous dit l'élève, dans un basculement. On est tutoré avec des tuteurs, on est leur tutoré, c'est vraiment eux qui s'occupent de nous. Avec un prof, tu peux parler, apprendre à le connaître, c'est pas juste le prof, il y a une personne derrière, confie un élève. Alors au-delà de cet aspect très important de la relation, les dispositifs de soutien sont pensés pour permettre également avant tout la remobilisation scolaire des élèves. Cette remobilisation scolaire, elle va avec l'exigence dont je vous parlais au début. Dans ces dispositifs de soutien, parfois on apprend autre chose, mais cette autre chose doit être utile à l'élève. Comment le réinvestit-il ? Alors il y a l'apprendre à apprendre avec la méthodologie, l'apprendre à argumenter, le travail sur la saveur des savoirs, écrivait Jean-Pierre Astolfi. Cela devrait être les préoccupations de chacun des dispositifs de soutien. Un enseignant nous confie à ce propos, on ne leur apporte pas forcément beaucoup de réponses, mais on leur répète les réflexes qu'ils doivent avoir. Tu ouvres ton cahier de cours, tu relis bien. Dans ton manuel, tu as probablement un lexique, avec à la fin les aides en langue, etc., pour te rappeler un petit peu les verbes irréguliers. Donc c'est plutôt une aide méthodologique, un accompagnement plutôt qu'un cours refait, nous confie un enseignant. Alors pour reprendre les travaux menés autour de concepts comme les rapports au savoir, par exemple, il s'agit ici de lever avant tout les malentendus scolaires, lever les implicites scolaires. Nous avons observé par exemple, et Dominique l'a signalé tout à l'heure, une séance autour de la pratique de l'évaluation. Qu'est-ce que l'évaluation à l'école ? Il s'agissait pour l'enseignante de revenir sur la nécessité parfois d'évaluer, mais les objectifs de l'évaluation également, la dédramatisation parfois de l'évaluation, et de faire tout un travail à partir d'un débat collectif autour de cette place de l'erreur à l'école. Enfin, nous remarquons, et c'est le dernier point de cette diapositive, que les différents dispositifs de soutien tentent de replacer l'élève en tant que sujet, en tant qu'acteur de sa scolarité et de ses apprentissages. Donc, ça fait écho au principe du clé évoqué plus tôt. Et pour illustrer ce dernier point, trois dispositifs très rapidement, l'aide au travail, l'entraide, la contractualisation. Alors, AT, aide au travail, dans le jargon du clé. Donc, ce sont des séances prévues tous les mardis de 14h30 à 15h15 et les jeudis à la même heure pour les élèves de 6e. Il s'agit de se consacrer à la méthodologie des apprentissages. L'accent est mis sur la méthodologie de se mettre au travail. Cependant, l'objectif est également de faire comprendre aux élèves qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Les élèves sans difficulté scolaire sont présents et peuvent réexpliquer aux autres. Cela se passe par de l'écriture de consignes au tableau, de la discussion, du débat. Alors cette forme de tutorat entre pairs, bien que non formalisée, permettrait aux élèves d'apprendre sur eux-mêmes, d'approfondir leurs connaissances acquises et aussi apprendre aux autres des autres. Alors la dimension collective de l'aide, c'est ce que je voulais mettre en évidence, en opposition à la classique parfois aide individualisée, est proposée ici et valorisée. Alors elle existe dans une forme de tutorat entre pairs, cette fois formalisée, c'est l'entraide, le second dispositif, c'est des ateliers d'entraide proposés pour des lycéens qui viennent en aide et en soutien à des élèves de primaire, mais également des lycéens qui viennent en aide aux collégiens dans le cadre d'ateliers. Enfin, dernier exemple, la contractualisation. Le clé fonctionne avec plusieurs contrats établis entre l'équipe enseignante, les élèves et les parents d'élèves. Des engagements formels existent de toutes parts. Ils responsabilisent de fait les différents membres de la communauté éducative. Une enseignante nous dit qu'il y a un contrat scolaire dans chaque discipline, des exigences dans chaque discipline de travail, d'avoir son matériel, d'effort. Voilà, ces contrats, ils peuvent à un moment donné être en rupture quand il y a des absences, quand il y a des manquements. À la pédagogie de contrat, institutionnalisée par le fonctionnement systémique ici aux clés, renforcerait la prise de conscience de l'élève dans son statut d'acteur dans sa scolarité, d'un point de vue de la vie scolaire, de l'orientation, mais également d'acteur dans ses apprentissages. Alors pour clore, cette parenthèse illustrative. Oui, c'est fini. Pour clore cette parenthèse administrative consacrée au soutien proposé aux élèves et pour poursuivre la réflexion, quelques éléments, quelques idées qui pourraient nous aider. Alors à retenir donc une approche systémique qui permettrait de mettre en lumière une continuité des journées, une continuité des semaines, donc une cohérence temporelle qui rassure les élèves mais également les enseignants. Une concertation programmée, 3 heures hebdomadaires, qui participerait du développement professionnel des enseignants, donc une forme de professionnalisation finalement des enseignants. Enfin, nous avons constaté et relevé des dispositifs qui au départ peuvent paraître chronophages, ça représente beaucoup de temps, mais les enseignants nous disent à terme y gagner du temps parce que le partage de l'expérience serait au cœur des pratiques. Alors avant de terminer, je souhaitais simplement reprendre pour clore une citation de Philippe Mérieux, nous sommes à Lyon, à propos de la difficulté scolaire, et qui rappelle, je pense, l'importance d'une journée comme celle-ci et une préoccupation que nous partageons, que Dominique a également rappelé. L'école doit être à elle-même son propre recours. Elle doit proposer des solutions en interne pour compléter, sinon, à nouveau peut-être, les frontières vont se brouiller. Merci pour votre attention.